Bienvenue pour cette nouvelle émission, les rendez-vous du droit, et au menu de ce jour, l'application de la loi dans le temps. Alors, c'est un incontournable des cours de première année, c'est parfois un cauchemar pour les étudiants, ça l'est toujours pour les enseignants qui ont l'impression d'enseigner des mathématiques à des littéraires, et c'est d'ailleurs tellement vrai que certains enseignants se dispensent même de dispenser ce cours sur l'application de la loi dans le temps. Alors, on ne va pas se dispenser de le faire, parce que c'est un sujet, d'abord, qui en pratique est incontournable. C'est un sujet qui est la première initiation à la vraie technique juridique. Et puis, c'est un sujet qui est lourd de considérations et politiques et théoriques. Et donc, nous allons en parler aujourd'hui pour cette émission, pour ces nouveaux rendez-vous du droit. Alors, comme c'est compliqué, il faut être simple. Donc le but est de clarifier et de partir de ce qui est le plus facile pour aller vers le plus compliqué. Nous allons donc commencer, comme d'habitude, par les questions que vous vous posez. Alors on commence avec vous, Elena. Et ça commence mal, si j'ose dire. Non, ça commence mal. Pourquoi ? Pas parce qu'on est avec vous, on est ravis d'être avec vous et de vous retrouver sur ce plateau. Mais il y a trois expressions pour parler du même sujet. Alors, il y en a deux de trop ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait, il y a trois expressions. L'application de la loi dans le temps,
oui.
Le conflit des lois et le droit transitoire.
Alors, oui. Est-ce que ces trois expressions désignent la même chose ? Est-ce que le fait qu'il y ait trois expressions, ça met un peu de couleur dans le sujet ? Dites-nous.
Il y a des nuances à faire. Parce que concernant l'application de la loi dans le temps, je me pose la question, suis-je concerné par l'application immédiate de la loi nouvelle ? Dans le cas du conflit des lois, je me demande si je dois privilégier l'application de la loi nouvelle sur la loi ancienne. Je peux prendre tout de suite l'exemple du bail d'habitation et le plafonnement des loyers.
Oui.
Est-ce qu'en tant que locataire, par exemple, je peux bénéficier d'un loyer plafonné ?
Oui.
Et en ce qui concerne le droit transitoire, je me demande s'il faut organiser une transition lorsque deux régimes, en fait, on voit que deux régimes se succèdent.
Oui. Oui, alors là, je reprends un tout petit peu la balle, mais en fait, quand on dit application de la loi dans le temps, bon, c'est un peu comme quand on est sur le plateau là, d'une émission de télévision, et puis alors, on dit les loyers vont être plafonnés. Puis alors là, il y a un petit reportage, on dit suis-je concerné ? Alors oui, là, c'est vraiment ça, c'est l'application de la loi nouvelle. Est-ce que la loi nouvelle va s'appliquer à moi ? Après, conflit de loi, on dit est-ce qu'il faut choisir vraiment entre la loi ancienne et la loi nouvelle ? Droit transitoire, on se dit de toute façon, si on change de loi, bah, faut bien organiser la transition. Alors, ça, c'est le. Vous voyez qu'on parle du même problème, on en parle un peu différemment. Bon, maintenant, quelles sont les solutions qui s'appliquent à ces problèmes ? C'est ce que nous allons voir avec Quentin. Quentin, qu'est-ce qu'on peut dire de ces principes de solution de l'application de la loi dans le temps ?
Alors, il y en a trois, un principe fondamental et une alternative qui se divise en deux branches dont nous allons vous parler. Le principe fondamental, c'est celui de non-rétroactivité de la loi, qui signifie que la loi ne s'applique pas à des faits qui ont été commis antérieurement à sa promulgation.
Donc, on prend un exemple. Alors, on va prendre un running qui va revenir souvent. Contrat de bail, donc location, bail à usage d'habitation. On a une loi nouvelle qui vient ajouter plein de conditions de forme. Il faut faire un diagnostic environnemental du bien loué, etc. Ajouter tout ça au contrat. Et ceci conditionne la validité du contrat. Ça vient de sortir. Alors, si j'ai conclu mon contrat avant, sa validité ne sera pas remise en cause du fait de cette loi nouvelle, parce que principe de non-rétroactivité. Bon, simplement, ça ne marche pas à tous les coups. Parce que si la loi nouvelle vient dire « je plafonne les loyers », alors, j'en bénéficie ou j'en bénéficie pas ?
Et ça, a priori, ce n'est pas compliqué pour les loyers anciens, puisqu'ils ont déjà été payés, mais pour les loyers nouveaux, puisqu'on est en forme de situation en cours. Eh bien là, deux solutions sont possibles. La première, c'est d'appliquer immédiatement la loi nouvelle, c'est-à-dire de plafonner les loyers immédiatement. L'autre solution, c'est celle de faire survivre la loi ancienne et de continuer pour les contrats conclus antérieurement à la loi, d'appliquer la loi ancienne, donc le non-plafonnement des loyers.
Alors, les solutions du droit positif, quelles sont-elles ?
Mais en droit positif, on peut remarquer qu'il y a une forme de hiérarchie de ces principes. Le principe premier, disons, étant celui de l'application immédiate de la loi nouvelle.
D'accord. Alors, exemple d'application immédiate de la loi nouvelle, on peut par exemple prendre la loi qui autorise le divorce devant notaire. Et cette loi, donc c'est une loi, sauf erreur, du 18 novembre 2016, cette loi va s'appliquer immédiatement, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à des couples qui se sont mariés avant 2016 et qui vont pouvoir bénéficier de ce régime allégé pour divorcer. Voilà, donc ça, c'est l'application immédiate, mais il y a des exceptions.
Évidemment, il y a une exception, et par exception, la loi ancienne survit, et ce, en matière contractuelle.
Yes. Il y a des exceptions à ça ? Parce que justement, si on dit ça à mon histoire de loyer, ça veut dire que moi, je ne bénéficierais pas de mon loyer plafonné si mon contrat était conclu avant.
Ça devrait être ça, mais justement, ça ne l'est pas, puisqu'il y a une exception à l'exception. En effet, même en matière contractuelle, la loi nouvelle s'applique immédiatement en ce qui concerne les effets légaux du contrat. Les effets légaux du contrat, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les effets que les parties ne peuvent pas déterminer par elles-mêmes, c'est-à-dire ceux que fixe la loi de façon impérative, indérogeable, et en tant qu'ils sont d'ordre public, ces effets, finalement, ils s'appliquent immédiatement à la situation juridique contractuelle en cours.
Alors, on voit que, finalement, les principes sont relativement simples, hein. Non-rétroactivité, application immédiate de la loi nouvelle, par exception survie de la loi ancienne en matière contractuelle et exception à l'exception pour les lois qu'on va dire particulièrement impérieuses, on peut dire les lois d'ordre public, même si cette expression d'ordre public comporte quelques marges d'interprétation, mais enfin on a un dispositif assez sûr. Alors, voilà. Ça, ce sont les principes, maintenant il faut les faire fonctionner et c'est le temps d'en venir au droit par l'exemple. Le droit par l'exemple, nous y sommes. Donc en fait, si le sujet de l'application de la loi dans le temps est difficile, on l'a vu, ce n'est pas tellement le fait des principes qui sont assez simples à exposer et à mémoriser. Non, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre. Et c'est bien pour ça que le comprendre les conflits de loi dans le temps suppose, ou l'application de la loi dans le temps suppose qu'on prenne un exemple et qu'on travaille sur un exemple. Mais avant d'aboutir à l'exemple, d'arriver sur l'exemple, il faut quand même intégrer des principes de méthode que, Elena, vous allez nous expliquer en termes nécessairement un peu abstraits, une espèce de petit guidane pour bien avancer dans la résolution de ces problèmes.
J'espère que ça va être plus simple. Effectivement, il faut tout d'abord comprendre quelle est la situation juridique visée par la loi nouvelle et identifier plus concrètement s'il s'agit de la constitution, de l'exécution ou de l'extinction.
De la situation juridique.
Tout à fait. Évidemment, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle est simple. Il ne s'applique pas à des situations constituées, exécutées ou passées avant. Mais le problème se pose dès lors que les séquences sont en cours.
Oui.
Et là, on a une alternative. Application immédiate de la loi nouvelle ou survie de la loi ancienne.
Voilà. Donc, il faut bien que je regarde à quelle situation la loi s'applique. Et si elle vise la Constitution, on se répète, mais il faut vraiment que ça rentre hein, par imprégnation, l'exécution ou l'extinction. Et si l'une de ces séquences est en cours, eh bien, c'est là que nous avons le choix entre application immédiate et survie de la loi ancienne. Alors, ça, ce sont les principes de mise en œuvre. Ce ne sont pas les principes de solution, vous l'avez vu, ce sont les principes de mise en œuvre des solutions. Et maintenant, il nous faut un exemple pour voir comment tout cela fonctionne et un exemple dans lequel nous allons voir que dans la mise en œuvre, il y a des marges. On a pris un exemple qui peut susciter la polémique, mais qui est de tous les temps, puisqu'il y a ce sujet fait l'objet de réformes quasiment constantes, les retraites. Eh bien, quand une réforme des retraites intervient, se pose nécessairement un problème d'application de la loi dans le temps. Suis-je concerné ? C'est toujours cette même question qui revient. Alors, quand j'ai une loi qui réforme les retraites, comment je raisonne comme juriste pour appliquer la loi dans le temps ?
Voilà, donc déjà caractériser la situation juridique, on sait très bien qu'elle est constituée par un revenu d'inactivité passé un certain âge, c'est comme ça qu'on constitue une retraite.
La situation juridique, c'est la retraite.
Tout à fait.
D'accord.
Elle est constituée justement par les annuités de travail. Et elle s'éteint malheureusement par le décès. Il y a bien sûr deux possibilités.
Alors oui, donc on imagine là notre réforme. Hein, on va prendre deux hypothèses de réforme. Une petite réforme simple, on révise le montant de la rente versée aux retraités. Alors tout ça s'applique, comment on va faire pour appliquer cette loi nouvelle ?
On comprend que c'est une situation juridique en cours, c'est une situation légale, donc il y a application immédiate de la loi nouvelle.
Voilà. Donc elle s'applique à la situation juridique en cours d'exécution, la retraite, et comme c'est une situation légale, principe d'application immédiate de la loi nouvelle, donc si on réduit les rentes des retraités, messieurs les retraités, vos rentes vont baisser. Bon, alors maintenant, deuxième type de réforme, on modifie les conditions d'accès à la retraite. Et donc, on dit qu'il faudra travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans, 77 ans, 2030, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra avoir fait 250 annuités. Bref, les conditions pour bénéficier de la retraite changent. Est-ce que cela s'applique aux salariés qui travaillent ? Est-ce que ça s'applique aux retraités déjà ?
Aux retraités, non, parce que leur situation a été constituée déjà.
Ben oui. Mais est-ce que ça s'applique par contre aux... est-ce que ça va s'appliquer aux salariés actuels ?
Oui, parce que leur situation, en fait, est en cours de constitution. Ils doivent remplir, bénéficier des annuités, accumuler les annuités.
Oui, c'est ça. Donc, la situation juridique, hein, de la situation juridique, la retraite, est une situation légale. Cette situation légale est en cours de constitution. Situation légale en cours de constitution, j'applique immédiatement la loi nouvelle. Ce qui, vous le savez, fait des mécontents, certains trouvant que une réforme des retraites, c'est toujours très bien quand ça s'applique à ceux qui rentreront après sur le marché du travail. Je ne suis pas de juger cette position. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les juristes peuvent donner une forme et une forme d'expression à ce type de revendication, à ce type de prétention pour rester dans le domaine du droit. Donc, on peut jouer sur les situations juridiques. Et si on veut satisfaire la prétention des salariés qui ne veulent pas se voir appliquer le nouveau régime, eh bien on peut dire, c'est une subtilité, mais la situation juridique, ce n'est pas la retraite, la situation juridique, c'est le travail. Et là, on va voir que ça change tout.
Quentin. Ça change tout parce que dans ce cas-là, la constitution de la situation, c'est le début du travail, c'est-à-dire l'entrée sur le marché du travail. L'exécution de la situation, c'est toute la durée du travail, tandis que l'extinction de la situation, c'est la liquidation des droits à la retraite, c'est-à-dire le début de la retraite, finalement. Et dans ce cas-là, on a affaire à une réforme sur les annuités qui concerne donc l'exécution d'une situation en cours. Alors, a priori, pour les annuités antérieures donc à la réforme, on devrait appliquer, sous diverses réserves, mais la loi ancienne.
Oui, c'est-à-dire qu'il faudra convertir hein, c'est le système, les annuités acquises sous l'ancien régime, sous le régime ancien, les convertir pour qu'elles soient, elles aient la même valeur dans le régime nouveau.
Mais enfin, on garde l'acquis. Le principe,
là, on est d'accord.
En revanche, que se passe-t-il pour les annuités futures ? Nous avons déterminé la durée, le moment de la situation, mais il faut encore déterminer sa nature. Si la situation est de nature légale, eh bien, on appliquera la loi nouvelle de façon immédiate. Si la situation est considérée, ce qui est tout à fait possible, de nature contractuelle, puisque, après tout, la retraite découle tout de même de contrats de travail successifs. Eh bien, dans ce cas-là, a priori, devrait survivre la loi ancienne. Sauf si on considère que les dispositions sur les annuités sont des dispositions qui règlent des effets légaux de la retraite, ce qui nécessiterait donc d'appliquer
des
effets légaux du travail, plutôt, ce qui entraînerait donc l'application de la loi nouvelle en tant qu'elle serait d'ordre public indérogeable.
Ouais. Bon, alors, d'un côté, on va quand même pas se mentir, hein, si on raisonne même en matière contractuelle, les effets légaux et l'effet d'accumulation des points liés au travail sur le régime de retraite ultérieur, ce sont des effets légaux d'ordre public. Donc normalement, on doit conclure à une application immédiate. Mais il est vrai qu'en raisonnant, se plaçant sur le fondement contractuel, en décalant la situation juridique, eh bien on voit qu'on peut donner une couleur, une structure, une forme juridique à une revendication d'ordre social. Et ceci nous montre que derrière toutes ces questions techniques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux théoriques, que c'est maintenant le moment d'approfondir en allant plus loin. Pour aller plus loin, montrer la dimension politique du sujet, montrer sa dimension théorique. Je reste un instant sur les retraites pour mettre en évidence la dimension politique du sujet. Bon, je disais, on ne va pas se mentir. Non, en fait, on voit bien qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent. Et si on voit que, si on considère que la retraite est en quelque sorte un droit acquis au bénéfice de salariés qui ont réalisé tant d'annuités de travail, il est assez naturel qu'on privilégie la survie de la loi ancienne. On se situe dans une logique de respect des attentes et donc on raisonne dans une logique qui est assez proche de la logique contractuelle. Maintenant, si on voit la retraite comme un dispositif de solidarité nationale au profit de nos aînés, eh bien, dans cette situation, on dira c'est plutôt une situation légale et on plaidera pour l'application immédiate de la loi nouvelle. Donc, on voit bien que là, il y a des choix qui sont des choix d'ordre politique, mais l'intérêt du juriste, c'est de clarifier. C'est de mettre des mots sur les choses, de poser les alternatives, d'imposer des cohérences quand on choisit tel système ou tel autre, et de mettre de l'ordre et peut-être un peu de paix dans des discours qui sont souvent des discours tendus. Alors, au-delà de la politique, il y a la théorie qui arrête la politique, et il y a dans cette matière, plus qu'aucune autre, une dimension importante qui s'impose aux politiques. Et cette dimension qui est incontournable, c'est la non-rétroactivité. On poursuit avec vous, Quentin, sur la non-rétroactivité. Pourquoi est-ce si important ?
C'est un principe essentiel. Déjà, preuve en est qu'il est d'application, pour ainsi dire, universelle. C'est-à-dire tous les pays du monde connaissent ce principe de non-rétroactivité. La raison pour laquelle un tel principe est extrêmement important, c'est qu'il permet de réaliser ce qu'on appelle la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est... le fait, pour tout justiciable, de pouvoir savoir, en s'informant, quelle sera la loi qui sera applicable en cas de litige. Disons que c'est ça. Ce qui lui permet donc de bénéficier d'une certaine prévisibilité des solutions, de façon abstraite et de façon concrète, et c'est là le plus important, c'est ce qui lui permet de ne jamais se voir reprocher, à cause d'une loi nouvelle, des faits qu'il aurait commis antérieurement à cette loi nouvelle et qui étaient conformes à la loi sous laquelle il a réalisé ces faits.
Oui, alors moi je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est dire quand même qu'au-delà de la sécurité juridique, la non-rétroactivité c'est le droit. Et c'est l'interdiction faite aux politiques de venir dire à un citoyen que ce qu'il a fait à un moment donné dans la légalité deviendrait illégal du seul fait du choix du souverain. Et s'il y a de la rétroactivité, il n'y a pas de droit. Et pour qu'il y ait du droit, il faut qu'il y ait de la non-rétroactivité. C'est pour ça que c'est un principe... je dirais, qui s'impose dans tous les états de droit et qui s'impose de manière transversale. Alors on commence par, dans une introduction au droit privé, la reine des matières, le droit civil. Qu'en est-il en droit civil, Quentin ?
Le droit civil consacre ce principe à l'article 2 du Code civil, donc une place prééminente pour le coup. Comme cette place... comme il n'était que dans le Code civil, il n'a qu'une valeur législative, et c'est la raison pour laquelle ce principe connaît, mine de rien, des exceptions.
Ah, voilà, toujours
évidemment,
des exceptions.
Évidemment, les exceptions sont, au vu d'un tel principe, très souvent mal vues, mais elles peuvent tout à fait s'expliquer, et sont même justifiables, et c'est la raison pour qu'elles puissent d'ailleurs être justifiables, raison pour laquelle elles sont contrôlées.
Juste, Quentin, c'est parce que quand vous dites elles sont mal vues, là on dit il en a trop dit ou pas assez. Non, il y a des lois spécialement rétroactives, type quoi de validation, etc., qui donnent lieu à un contrôle très exigeant. Ce sont des choses dont on a parlé longuement et qui sont longuement explicitées dans le cours écrit. Et là, on a voulu se focaliser sur un exemple normal, un bon exemple.
Oui, un bon exemple, mais même les mauvais exemples sont toujours contrôlés, ce qui permet de garantir que malgré les a priori qu'on pourrait avoir sur des lois rétroactives, elles peuvent, grâce au contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité, être tout à fait légitimes. Un exemple intéressant de loi expressément rétroactive, c'est la loi de 1985 sur les accidents de la circulation routière. Cette loi, qui prévoyait de s'appliquer rétroactivement à des accidents survenus antérieurement à sa promulgation, était donc rétroactive. Chose a priori plutôt rare en droit positif, disons,
donc
mais
ça
très
veut dire,
utile.
Juste pour être sûr qu'on nous comprenne bien, elle est rétroactive, c'est-à-dire que cette loi de 1985 s'applique à tous les accidents qui sont survenus même avant
son entrée en vigueur. 180, voilà. Bien sûr. Et cette loi rétroactive a quand même deux avantages. Le premier, c'est que pour tous les litiges donc postérieurs à la promulgation de la loi, toutes les victimes d'accidents de la route seront traitées de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'égalité de traitement, ce qui est quand même un idéal démocratique très fort, évidemment. Mais le deuxième avantage, qui peut paraître lui plus paradoxal, c'est que, grâce au contenu de la loi, une sécurité juridique plus grande a pu être obtenue, puisque avant la loi de 85, disons que le résultat de l'indemnisation et le montant étaient assez incertains, alors qu'avec la loi de 85, l'indemnisation était sûre et le montant plus facilement connaissable.
Oui, il y a les offres des assurances. Donc bref, le système d'indemnisation comporte moins d'insécurité juridique qu'il en comportait avant. Bon. Et alors, vous voyez que si le principe de non-rétroactivité est fondé sur la sécurité juridique, si une loi nouvelle, par son contenu, apporte de la sécurité juridique, pourquoi perdre son temps? Il y a une convergence des finalités. Et finalement, c'est sans porter atteinte à l'essence de la non-rétroactivité qu'on décide d'appliquer rétroactivement cette loi de 85. Et ça, c'est le côté, ce petit côté magique et qui fait le charme du droit. C'est que, non, mais c'est vrai, c'est qu'assez souvent, le principe vient se nicher dans l'exception. Et ben voilà, c'est la beauté du droit. Donc, on vient de le voir avec Quentin, en matière civile, la non-rétroactivité est le principe, mais c'est un principe qui, dans des conditions limitées, souffre de quelques exceptions. Alors, qu'en est-il en matière pénale? Et c'est ce que nous allons voir avec Elena. Elena, comment ça se passe en matière pénale?
Donc déjà, de manière impérative, il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Et c'est normal, cela découle du principe de légalité posé à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 7 toujours de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas reprocher et réprimer une personne, le comportement d'une personne en fonction des conditions plus sévères, donc qui n'étaient pas en vigueur au moment où ce comportement a eu lieu.
D'accord. Là, on ne met pas en prison quelqu'un pour des faits qui étaient parfaitement légaux au moment où ils ont été commis. Il n'y a que sous les révolutions qu'on commet ce genre d'horreur. Alors simplement, ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est qu'en matière pénale, il y a de la rétroactivité.
Il y a de la rétroactivité, on le déduit tout de suite de l'impératif de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Donc, lorsque la loi est plus douce, en revanche, elle rétroactive. Et c'est normal. Les exigences de la société envers certains comportements infractionnels ont changé. Donc il est normal de faire bénéficier la personne qui a commis un fait, mais qui est jugée après l'entrée en vigueur de cette loi plus douce, des conditions plus douces.
Oui, donc ça veut dire que la sanction du vol passe de 5 ans à 3 ans, eh bien, si au moment où on est jugé, la loi dit 3 ans, même si au moment du vol, la loi prévoyait 5 ans, ce sera la peine maximum de 3 ans qui s'appliquera. J'ai compris?
Tout à fait.
Oh, chouette. Bon, alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire la mouche du coche et puis de rajouter un petit facteur de complexité, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi l'idée que quand on juge quelqu'un et qu'on fixe sa peine, on le fait en fonction de ce qu'il a fait par le passé, mais on le fait aussi en fonction de l'état dans lequel il est au moment où on le juge. Est-ce qu'il a fait amende honorable? Est-ce qu'il s'est engagé? Est-ce qu'il a fait des efforts de réinsertion, etc., etc. De sorte que le jugement, la fixation de la peine intervient au jour du jugement. Et c'est peut-être normal qu'on se place à cette date de sorte que, vous voyez, je suis un peu subtil, mais la rétroactivité de la loi pénale plus douce, elle peut apparaître finalement comme une forme d'application immédiate de la loi nouvelle, en tout cas sur les peines. Bon, petit détour, peut-être inutile, mais pour vous montrer toute la flexibilité du discours juridique. Par contre, oui, Elena, il y a un sujet qui lui mérite qu'on s'y arrête un instant, c'est qu'il y a des lois pénales plus sévères qui s'appliquent de manière rétroactive.
Tout à fait, on peut évoquer tout de suite l'exemple historique du tribunal militaire international de Nuremberg. Les criminels nazis ont été jugés pour les crimes contre l'humanité et d'autres crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale, en considérant le fait qu'il y avait des principes éternels du droit naturel qui devaient prendre en compte.
Je vous interromps, Elena. Le premier point à retenir, c'est que des qualifications juridiques qui n'existaient pas pendant la Seconde Guerre mondiale, crimes contre l'humanité, ont été appliqués aux crimes nazis commis antérieurement à la détermination de ces qualifications juridiques. Alors, pourquoi on admet cette solution totalement dérogatoire?
Justement, en prenant en considération la dignité humaine, l'humanité tout entière, on considère que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, sont des crimes qui choquent l'humanité tout entière. Or, les nazis devaient penser qu'ils ne pouvaient dans absolument aucun cas porter atteinte à la vie humaine et à l'espèce humaine finalement, parce que ce sont des crimes contre l'humanité justement.
Ah, et l'humanité est éternelle, donc le temps ne joue plus. Donc la rétroactivité n'est même pas une rétroactivité. Les infractions qui ont été commises ont porté atteinte à une valeur qui est de tout temps. ce qui autorise la, cette pratique tout à fait dérogatoire. Est-ce qu'on peut transposer, et est-ce qu'il y a des exemples, Elena, de reconnaissance de cette qualification de crime contre l'humanité de manière rétroactive ?
De manière rétroactive, on peut aussi évoquer l'exemple des personnes qui ont exécuté, qui ont tué les personnes qui ont essayé de franchir le mur de Berlin, donc de traverser de l'ancienne République démocrate allemande vers d'aller dans la République fédérale d'Allemagne. Et justement, c'est la même question, l'idée de tuer ces personnes, même en considérant un ordre comme légitime.
Oui, oui, mais on en a parlé préparant l'émission, et je dois dire que moi j'ai été surpris parce que j'avais retenu que le crime contre l'humanité, c'est le crime qui consiste à tuer quelqu'un, ou même moi, mais enfin en tout cas à faire mal, du simple fait qu'il est né d'une certaine qualité. Mais évidemment que le fait de tuer sur des Allemands de l'Est qui souhaitent passer à l'Ouest est une abomination, mais on le fait en fonction d'un comportement, une volonté de passer dans un pays libre. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait une infraction du fait de la naissance. C'est peut-être, j'aurais plutôt pensé à une qualification de crime de guerre plutôt que de crime contre l'humanité. Et ma crainte, c'est qu'on étende trop facilement la qualification pour mettre de la rétroactivité pénale partout. Vous ne pensez pas ça ?
Je ne suis pas nécessairement d'accord parce que les crimes se sont perpétrés.
Ça ne vient pas du tout. Là. Oui, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord ?
Parce que les crimes ont été quand même perpétués pendant une certaine période contre ces personnes. Et donc, on considère que par la répétition, déjà, il y avait une attente à l'humanité. Donc, ce n'était pas justement des personnes considérées comme dans le simple fait d'essayer de franchir une frontière pour avoir une vie meilleure, c'était des personnes tout simplement qu'il fallait tolérer pour leurs gestes.
Oui, ce que vous voulez nous dire, c'est que le fait de préméditer dans la durée une décision aussi radicale, vous paraît relever, c'est là que vous voyez le crime contre l'humanité, alors qu'a priori on aurait pu les emprisonner, mais c'est la décision de tuer de manière préméditée et permanente que vous... qui fait le crime contre l'humanité, je vous comprends là.
Exactement, et c'est justement la question de l'atrocité, de quelque chose qui choque l'humanité tout entière, de tuer des gens tout simplement parce qu'ils cherchent à traverser une frontière.
Bon, merci, merci Elena. On termine sur une note assez grave, mais je crois que c'était un peu le but, non pas de terminer dans la gravité, mais de montrer qu'en partant d'une question prosaïque, simple, hein, la petite question du journal de 20h, suis-je concerné, eh bien, on arrive à des sujets aussi graves que la dignité et l'humanité. Je pense que c'est une excellente conclusion. Au revoir, à très bientôt et merci.